France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Franchir les Pyrénées sur les traces de ceux qui voulaient quitter la France occupée, c'est le sujet de Tous passés sans effroi, le nouveau livre de Jean Rollin. Il sera mon invité à partir de 13h. Mais comme d'habitude, c'est en critiquant qu'on ouvre cette émission. Au programme aujourd'hui, Un avenir radieux, le sixième volet de la fresque romanesque de Pierre Lemaître et Le côté obscur de la reine de Marie Nimier qui sonde sa relation à sa mère. Voilà le menu, je vous présente les convives. Marie Sorbière, rédactrice en chef de IO et productrice du Point Culture sur France Culture.
Bonjour Marie.
Bonjour, Céline Duchesnet, autrice et productrice à France Culture.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à toutes les deux. Revoici donc Les Pelletiers. Un an après la parution du Silence et la Colère, un nouveau de la traversée du XXe siècle que nous propose Pierre Lemaître, un nouveau titre, pardon, vient de sortir. Et c'est un avenir radieux. L'auteur goncourisé d'Au revoir là-haut, le premier opus du projet, s'intéresse cette fois d'un peu plus près à François. Soit un des fils Pelletier, et le plonge dans une intrigue d'espionnage entre Prague et la France, et ce, en pleine guerre froide. Comme à son habitude, Lemaître mêle la grande et la petite histoire. Il a déjà annoncé qu'il n'irait cependant pas au-delà de la chute du mur. On aura donc l'occasion de faire d'autres plateaux critiques, mais pour l'heure, que disons-nous d'un avenir radieux ? On commence avec un avis rapide, Marie Sorbier.
Eh bien moi, j'ai pris un grand plaisir de lecture à retrouver Lemaître. J'ai pas tout lu de sa grande fresque, j'en avais lu quelques-uns, mais c'était il y a quelques années, j'avais un peu... lâcher le flot, et je l'ai retrouvé avec un grand plaisir, d'abord parce qu'on s'y perd pas du tout, et même si on n'a pas tout lu, tout marche très bien, on peut le lire indépendamment, donc pas de problème de suite ou de début. Et puis, je reconnais quand même chez lui une maestria à lier à la fois des histoires de famille et les histoires d'espionnage, et les deux en même temps, et tout ça est très fluide et très plaisant à lire.
Céline Duchesnet.
Alors moi aussi, plaisir de lecture. Comme Marie, moi ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu Pierre Lemaître. J'étais restée sur la première trilogie, donc pas du tout lu le premier tome ni le deuxième tome de ces années glorieuses. Alors, à la différence de Marie, moi je trouve que quand on n'a pas lu les deux premiers tomes, il y a quand même des pages qui restent haletantes parce que ça c'est vraiment comme une sorte de polar. On se demande ce qui va se passer à chaque fois, mais j'ai quand même sorti à un moment donné une petite feuille et un crayon pour refaire l'arbre généalogique, parce qu'au bout d'un moment, je me suis perdue un peu dans la fratrie, dans les épouses, les compagnons, les enfants. Mais une fois que vous avez fait ça, en effet, on a un véritable plaisir de lecture, avec cette idée que j'ai trouvée assez intéressante, qui est que c'est comme une série, un feuilleton, si ce n'est que il y a des allusions au passé des frères et sœurs de cette fratrie, évidemment qui renvoient ou au volume 1 ou au volume 2, mais on ne sait jamais ce qui s'est passé, ce qui nous obligerait presque à prévoir pour l'été, parce que je vous rappelle que c'est quand même 600 pages à chaque fois, de se dire cet été, je vais lire le volume 1 et le volume 2, soit 1200 pages, pour savoir exactement ce qui est arrivé à Hélène avant, à Nine, à Jean, pourquoi un tel est comme ça, pourquoi une telle est comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut le lire sans avoir lu les 1200 pages auparavant.
Donc ça demande un tout petit peu de boulot, faut lire les 1200 pages et puis faire un petit timbre généalogique. On va écouter tout simplement un extrait d'un avenir radieux.
Colette observa la ferme un long moment, comme si un danger la guettait qu'elle ne discernait pas. Le danger était devant, elle le savait, mais elle jeta tout de même un regard inquiet de l'autre côté, tendit l'oreille. La campagne bourdonnait de mouches, les feuilles des marronniers frémissaient par vagues. Le plus bruyant, c'était son cœur, qui cognait à tout rompre, le sang lui battait les tempes. Elle tressaillit soudain. Le chien avait dû la sentir parce qu'il se mit à aboyer furieusement. Un sale molosse, large comme un veau, aux dents brillantes, qui se sauvait facilement, attaqué sans raison. Des gens s'étaient fait mordre. Depuis que les gendarmes étaient venus, Macagne le tenait attaché dans la journée. Il n'y avait que lui à pouvoir l'approcher. Et Joseph. Le chat de Colette et lui se haïssaient. Joseph traversait régulièrement le champ pour venir s'installer mollement sur la première branche du tilleul et le narguer, quasiment à portée de laisse, mais pas tout à fait. Le chien, ça le rendait dingue. Là, Joseph procédait à sa toilette et le fixait en souriant. Colette l'avait souvent vu faire. Sauf que cette fois, c'est elle qui devrait éviter d'être à portée de laisse.
« Et merci à Marceau Vassy pour la lecture et à Laurence Malonda pour la réalisation de ce très beau passage lu. Marie Sorbier, vous parliez de maestria, elle tient à quoi?
Oui. Parce que je trouve qu'il sait, comme pas grand monde ne sait le faire, en tout cas en littérature française, mêler ce qu'on appelle de façon très classique la grande et la petite histoire. Alors, de façon un peu plus approfondie, il a, avec cette famille Pelletier, qu'il travaille, qu'il malaxe depuis des années, un terreau d'histoire incroyable. Parce qu'on a donc les grands-parents qui ont 4 enfants, eux-mêmes sont mariés et ont des enfants. Donc on est sur 3 générations et chacun a des caractères, a un caractère complètement à la fois banal, terrifiant et réjouissant. Et donc ça donne des galeries de portraits et de personnages très attachants, même s'ils sont extrêmement pénibles. Je prends un exemple, la fameuse Geneviève, qui est aussi au centre de ce livre. Vous avez parlé de François, mais il y a sa belle-sœur, la femme de Jean, le fils aîné, qui s'appelle Geneviève et qui est vraiment mais atroce. C'est vraiment la belle-sœur que vous voulez pas avoir. Vous priez pour ne pas avoir quelqu'un comme ça dans votre famille. Elle est castratrice, elle est méchante. Elle se base uniquement sur les thèmes astro des gens et sur son hebdomadaire d'astrologie qui arrive chez elle. Et à partir de là, en fait, toute la semaine sera définie par ce qu'elle a lu dans ce magazine. Elle est terrible, c'est une mère atroce avec ses enfants, elle a abandonné sa fille qu'elle a laissée chez les grands-parents et elle surinvestit son fils qu'elle appelle mon petit prince, qu'elle a gardé chez elle. Enfin, il y a 1000 histoires qui sont vraiment... le personnage détestable et en même temps, bah, évidemment, comme tous les personnages détestables, on adore les détester, donc de voir tout ce qu'elle est capable de faire, la répartie qu'elle a, les phrases qu'il arrive à lui faire, à lui mettre dans sa bouche de cruauté, bah, ça c'est vraiment délectable quand on lit ce genre de livre, surtout parce que ça pourrait être qu'une histoire de famille, mais c'est là où non, Pierre Lemaître n'est pas un romancier du 19e siècle. Il nous met avec ses grandes histoires de famille une histoire d'espionnage. Et là, il y a beaucoup de références. Il fait des gros clins d'œil à John le Carré, par exemple, ce grand auteur d'espionnage, et de gros clins d'œil à Victor Hugo. En fait, on a les deux. On a Victor Hugo et John le Carré dans un roman. C'est vraiment ce que j'ai senti. Il les remercie à la fin, mais il y a de cet ordre-là. Il y a de l'ordre de l'hommage. Et je trouve qu'il arrive à mêler donc ces histoires de famille, une famille qui semble assez banale, on pourrait dire, dans tout ce qu'elle a d'étonnant, mais quand même, à une histoire d'espionnage qui est tout sauf banale, sauf qu'on est pendant la guerre froide. Alors, il y a un agent qu'il faut sortir de Prague absolument parce qu'il a dévoilé des renseignements trop chauds pour rester là-bas. Et ben, les renseignements français savent pas comment faire, ils arrivent pas du tout à le sortir, et puis ça va tomber sur le fameux François que vous citiez, donc un des fils de la famille qui est journaliste et qui va devoir prendre la place de l'agent pour laisser sortir l'agent. Évidemment, François, il est pas espion, il est journaliste, et donc tout ça va se passer de façon très rocambolesque, on va pas divulguer la fin, mais cette façon, donc, littérairement, de mêler les histoires de famille à cette histoire d'espionnage, je trouve qu'il fait ça avec maestria.
Il fait des allers-retours, c'est ça?
En fait, non, c'est assez fluide. En fait, il y a pas beaucoup de flashbacks. C'est plutôt une histoire qui se déroule. Mais autant on a les dîners du dimanche en famille dans la maison des grands-parents. Et le lundi va s'intercaler cet agent du renseignement qui va trouver comme solution de prendre ce fameux journaliste pour remplacer l'espion, etc. Ça se déroule. C'est quand même assez clair. Moi, j'ai toujours un problème avec les livres, les polars ou les livres d'espionnage. C'est que souvent, je comprends pas. J'ai pas l'esprit assez vif. Enfin, je sais pas comment dire, mais je mets beaucoup de temps à comprendre les intrigues, ce qui n'est pas le cas là. C'est-à-dire que Lemaître, il nous l'explique, il est quand même très, très indulgent avec ses lecteurs et il prend le lectorat au sens très large. Et donc même les gens qui ne sont pas habitués à lire des livres d'espionnage pourront être tout à fait accueillis dans ce genre d'ouvrage parce qu'on s'y sent bien et surtout parce qu'on suit l'histoire et il y a du suspense, ça monte quoi. Il y a une tension.
C'est un homme qui a écrit des romans noirs, donc il sait bien sûr le faire.
Il vient
Céline
du polar.
Duchesne, voilà,
oui,
il vient du polar.
Oui. Il vient du polar et je crois qu'une des grandes idées aussi de Lemaître, c'est de rendre hommage à la littérature à travers ces différentes trilogies, tétralogies. Et là, de toute évidence, on est dans le clin d'œil à John le Carré, même son personnage, un des personnages principaux qui ne fait pas partie de la famille Pelletier, mais qui est l'agent secret, s'appelle George, et c'est une allusion très claire à George Smiley, qui est le grand homme de renseignement de le Carré. Donc là, hommage à l'espionnage. Il y avait déjà eu un hommage au roman picaresque, un autre au roman social, au roman d'aventure. Donc il y a toujours une sorte de couleur comme ça littéraire pour chacun des volumes. Alors quand on est super fan et super habitué à lire des polars, à lire de l'espionnage, on peut être déçu parce que il y a justement ce côté qui est peut-être un petit peu trop simple, un petit peu pas assez alambiqué, mais c'est grand public et il y a vraiment pas de honte à faire grand public. Bien au contraire, c'est quelque chose qui touche à, je dirais, à la littérature populaire, accessible à tous et chacun, avec son degré de connaissance, peut rentrer très facilement dans les livres, tous les livres de Pierre Lemaitre. Et cette fois-ci encore, on n'a pas besoin d'être un grand spécialiste du renseignement, de l'espionnage, du thriller pour comprendre l'histoire qui se passe. Et en effet, il y a cette volonté aussi de retourner dans des périodes historiques. Là, tout se passe en 1959, quelques jours d'écart. Et on replonge avec Lemaitre dans l'époque avant le mur de Berlin qui a existé, dont certains se souviennent encore. Et avec cette idée que de l'autre côté du mur, on ne savait pas ce qui se passait. Donc, il y a quelque chose qui est assez intéressant de se dire, de se mettre dans la peau des personnages, de prendre un avion. Qu'est-ce que ça voulait dire faire du tourisme entre guillemets quand on allait à Prague en 59 et quand on prenait un risque, puisque François, alors je ne dis rien de tout ce qui va se passer, avait accepté d'aider les renseignements, bien qu'il ne soit pas du tout issu de ce milieu-là. Alors moi, le défaut que j'ai trouvé, c'est que c'est parfois un peu tiré par les cheveux. Pas tant pour la partie historique, mais pour les personnages. Justement, Geneviève, dont vous parliez, Marie Sorbier, moi, au bout d'un moment, je trouvais que c'était trop, cette manière de toujours tout lire par rapport à l'astrologie, sa cruauté. Je trouve que les personnages sont excessifs et que parfois, il peut manquer un peu de subtilité pour y croire. Et je sais que Lemaitre aime bien une phrase de Mark Twain qui est « La différence entre la réalité et la fiction, c'est que la fiction doit être crédible. » Et j'ai trouvé parfois que dans la manière dont les personnages étaient brossés, il y avait quelque chose qui ne les rendait pas crédibles. Par exemple, moi, je n'ai pas cru que François, alors qu'il est si amoureux de sa femme, alors je ne sais pas là comment je vais réussir à faire une phrase sans divulgâcher la fin, mais comment est-ce qu'il a pu accepter
de lui mentir.
De lui mentir, vu tout ce qu'on nous dit sur la relation entre cet homme et son épouse, la manière, ils ont une manière très moderne, je trouve, d'être amoureux et d'être en couple. Il prend une décision qui pourrait correspondre peut-être aux années 50, dans les rapports hommes-femmes tels qu'on pouvait les imaginer, tels qu'ils existaient. Vu comment François est, moi j'ai eu du mal à y croire, au fait qu'il puisse accepter le scénario qu'on lui demandait de dérouler et que je ne dévoilerai pas moi-même.
Mais Marie Sorbier, vous disiez, donc il marie, on l'a dit, c'est un poncif, la grande et la petite histoire, l'espionnage et l'histoire de la famille Pelletier. Ce qui était aussi très présent dans tous les autres opus, c'est beaucoup d'humour et en même temps des grands moments aussi d'émotion, de beauté. Enfin voilà, oui. Est-ce que ça on le retrouve?
Alors là, il y a eu quelques pages, je voulais revenir parce qu'on a écouté le début dans l'extrait qui a été lu, le début, que j'avais jamais lu, je crois, en tout cas chez Pierre Lemaitre. C'est-à-dire, vous le disiez, il y a un mélange des genres, c'est sûr, parce que les scènes de famille, elles sont très croquignolesques. Hein, on peut rire, on peut pleurer, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la farce. Et après, ça devient très sérieux sur le renseignement. Il y a aussi des pages très lyriques sur la description de Prague, qui sont très belles d'ailleurs. Alors là, pour le coup, littérairement, il décrit Prague sous la brume, dans le noir, avant l'ouverture de l'Est. Donc c'est vraiment une Prague qu'on connaît pas, mais qu'on connaît que dans les livres. C'est une Prague un peu de Kafka, et on l'imagine comme ça. Donc ça, c'est assez beau. Mais je voulais revenir à une des premières scènes du livre, une des premières pages, avec cette petite fille qui s'appelle Colette, et que moi, alors très étonnamment, j'ai lu tout le long du roman qu'elle s'appelait Cosette, mais en fait je sais maintenant pourquoi, parce qu'il y a vraiment un parallèle énorme, mais j'ai compris qu'à la fin que c'était moi qui me trompais de nom. Elle s'appelle bien Colette, donc cette petite fille qui a été confiée à ses grands-parents, il va lui arriver vraiment une scène atroce dans les premières pages, c'est-à-dire qu'en gros il y a un voisin du grand-père qui va l'agresser sexuellement, et la description de l'agression est non seulement très détaillée, j'étais très surprise que Lemaitre aille dans ces détails-là, c'est une petite fille de 11 ans, hein. on est sur une agression particulièrement violente. Et il use pour ça des codes du conte, c'est-à-dire que l'agresseur, qui est donc le fermier d'à côté, est vraiment décrit comme un ogre, comme une petite fille décrirait un ogre. Donc il est très grand, il a des dents noires, il sent mauvais, il a des grosses mains, il y a son chien qui hurle en permanence et il lui dit « si tu t'échappes de la grange, c'est mon chien qui va te manger, donc est-ce que tu préfères être agressé par moi ou être mangé par mon chien ?» Donc il y a ce truc, c'est vraiment, la scène est horrible, elle parvient à s'échapper, mais je me suis dit que c'était peut-être la première fois que je lisais une scène aussi... cru. Et le subterfuge du conte est assez malin, parce qu'évidemment, on la voit presque des yeux de cette petite fille de 11 ans. Et en même temps, ça nous transbahute dans une autre dimension que je n'avais pas l'habitude de lire chez le maître. Et puis, la page d'après, vraiment, on revient dans le réel et dans la vie de cette petite fille. Donc, voilà, il y a des passages comme ça, d'un genre à l'autre, moi, que j'ai trouvé très maîtrisé. Parce que quand même, dans la même scène, il faut le dire, il parle de cette agression et des pesticides, c'est-à-dire qu'il dénonce quand même deux choses qui pourraient être très actuelles, qui pourraient être très contemporaines, une agression sur mineurs et l'utilisation massive des pesticides qui font mourir les abeilles, puisque cette petite fille a des ruches, et c'est un peu sur D'accord. ça qu'elle s'accroche, c'est son dada, et donc toutes les abeilles meurent parce que ce fermier d'à côté, le méchant, utilise des pesticides. Et donc tout ça est fait en quelques pages, je sais pas, peut-être 10, 20, 30 pages, et là il y a quand même un truc d'écrivain qui est de pouvoir relier tout ça et que, pour le coup, ça crée quelque chose, un sentiment très étrange. Et ça, je ne l'avais pas lu, donc j'étais heureuse aussi de lire ce livre pour ça, pour découvrir cette partie-là de Le Maître.
Céline Duchesnay.
Oui, mais c'est des scènes qui sont difficiles à lire. Il y en a d'autres dans le livre. Alors là, la difficulté, c'est qu'on est face à une enfant de 11 ans, donc c'est épouvantable. Et c'est extrêmement poignant et c'est assez dur, parce qu'on le livre démarre quasiment là-dessus. Et quelque part, cette scène de départ n'inaugure pas tellement de ce qui va suivre dans le roman, mais connaissant Pierre Lemaître, on peut imaginer que ce personnage de Colette, qui est vraiment en pointillé tout au long du livre, on va la retrouver dans le prochain épisode. Et on imagine que elle et son frère, qui a aussi d'autres types de blessures, vont donner des personnages, parce qu'il fait une petite allusion à la fin en disant que finalement ils vont devoir se construire avec ces blessures initiales, ces horreurs initiales. Donc là, nous est ouvert, mais la porte grande au quatrième tome qui va conclure donc cette tétralogie. Et la violence et l'horreur, on l'avait déjà eu, je me souviens, dans Au revoir là-haut, par rapport à la Première Guerre mondiale. Là, il y a des scènes de torture aussi qui sont quand même extrêmement éprouvantes.
Mais des scènes sexuelles comme ça, enfin de violence sexuelle.
Alors voilà, moi j'ai pas tout lu, je ne sais pas. Je sais qu'il y a quand même un des premiers tomes qui est consacré aussi à la libération sexuelle des femmes, en tout cas aux présences des femmes dans les années 50. Donc je me dis, est-ce que... Mais là, je n'ai pas lu.
Il y a un petit garçon, dans le tout premier Couleur de l'incendie, un petit garçon qui se fait agresser également.
Ouais. D'ailleurs. Ouais. Donc je crois qu'il n'a pas peur de mettre les mains aussi dans la noirceur de l'âme humaine. Et même s'il a ce côté rigolo, humoristique, picaresque aussi, il y a quand même toujours quelque chose qui nous renvoie aussi à cette difficulté d'être un être humain et d'être du côté du bien, bien sûr.
D'où ce titre ambigu, Un avenir radieux, de Pierre Lemaître, publié aux éditions Calman Lévy.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Il y a 20 ans paraissait La Reine du silence de Marie Nimier, un roman où elle explorait sa courte relation à son écrivain de père, mort dans un accident de voiture quand elle avait 5 ans. Relation faite d'admiration et d'un peu d'incompréhension aussi. Aujourd'hui paraît Le côté obscur de La Reine. Et La Reine, c'est la mère, une mère flamboyante, négligente, dévorante, dont l'autrice ne sait plus vraiment quoi faire. Marie Nimier avoue ses sentiments de rejet aujourd'hui dans ce livre, mais elle retrace aussi l'histoire de sa famille, romanesque et douloureuse. Elle en dit plus aussi sur la figure paternelle. Roger Nimier, moins attachant en famille qu'à la ville. On commence avec un avis rapide, Céline Duchesnay.
Alors c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, du coup j'ai même relu la Reine du silence, parce qu'en effet il y a tellement d'échos entre cette histoire de la famille de Marie Nimier qui est retravaillée, mais elle n'a plus le même âge, elle a 20 ans de plus, donc elle découvre des nouvelles choses. Entre-temps, comme le premier livre a été publié il y a 20 ans, il y a du nouveau parce qu'on lui a écrit. Et donc on va finalement lire ce livre. Alors, oui, on pourrait se dire que c'est un livre sur le portrait de sa mère. Après avoir fait le portrait de son père, elle fait le portrait de sa mère. C'est beaucoup plus complexe et subtil que ça, parce qu'à travers le portrait de la mère, il y a un nouveau portrait du père. Il y a aussi beaucoup de choses qui nous sont livrées de Marie Nimier elle-même. Et on va lire ce livre comme une enquête. Alors, pas du tout à la façon de Pierre Lemaître. Là, on a d'autres outils pour essayer de comprendre une situation familiale compliquée, qui sont plus, je crois, quand même de l'ordre de la psychanalyse. Il y a quelque chose dans ce récit qui pourrait presque faire penser à une analyse psychanalytique, puisque on va d'épisode en souvenir, passé, présent, tout à coup on a aussi, il faut dire ça, cette chose très très belle dans cet ouvrage, c'est que on a des reproductions de lettres, de documents,
des archives
qui s'insèrent dans le récit.
Marie, rapidement un petit avis.
Alors moi, je suis très embêtée parce que j'ai pas du tout réussi à m'intéresser à ce livre, à ce propos. Je suis restée très extérieure. Alors, je me suis d'abord ennuyée, puis je me suis demandé pourquoi je m'ennuyais. Je pense que tout ce que je vais dire en fait parle plus de moi que du livre. Donc, j'arrêtais pas de me dire, mon Dieu, non, il faut que je me concentre sur le livre et que ça ne dévoile pas trop de choses. Mais en fait, je crois que fondamentalement, la narratrice m'a agacée prodigieusement dans le lieu où elle était. C'est-à-dire, cette femme à la fois un peu consciente parce qu'elle a l'âge qu'elle a, et en même temps toujours très amoureuse de cette mère toxique, on va le dire rapidement comme ça, et j'ai eu une sensation de mollesse, comme ça, tout le long du roman, qui je trouve n'évolue pas du tout, et en fait, ça m'a semblé comme un espèce d'élastique un peu distendu. Voilà.
On va écouter tout de suite un extrait du côté obscur de la reine.
Comme je l'aimais, comme nous nous aimions. Cela va sans dire, et l'écrire me serre le cœur. Ma mère, ma maman, il n'y a qu'une femme au monde que je peux appeler ainsi. Quel dommage, quel gâchis. Je ne lui en veux pas, non, lui en vouloir, ce serait encore la vouloir. Encore rester accrochée. Les gestes d'apaisement dictés par la raison me coûtent mes nuits. Je ne ris plus. Je suis fatiguée. On me conseille de me blinder, mais me blinder ne sert à rien. Ou alors je ne me blinde pas où il faut, comme il faut. Je suis creuse à force d'être lisse. Mon cœur s'emballe, et même si c'est un joli mot, extra-systole, je préférerais ne pas le connaître. J'étouffe sous le masque de l'indifférence, car il faut bien l'avouer, je suis tout sauf indifférente. Ma mère m'occupe, ses lamentations me submergent, sa mauvaise foi, ses chantages, son agressivité déguisée en tendresse, sa façon de retourner le monde à son désavantage. Je sors de mes visites lessivées. Je pleure souvent, j'ai du mal à travailler. Alors j'essaye de comprendre, pour garder la tête hors de l'eau. J'en parle à Gilles, mon grand frère né d'un premier mariage. Il ressent la plainte maternelle comme un rempart contre la réalité. Il dit au passage, et je me rends compte que je ne l'ai jamais entendu aussi clairement, « Se plaindre, c'est demander de l'amour. Le demander de façon chronique, de façon lancinante. Un amour absolu, cet amour qui relie l'enfant à sa mère, la petite fille à sa maman. »
Extrait lu par Léa Corlet, merci beaucoup. Céline Duchesnay, vous disiez que, voilà, effectivement, ce livre a été écrit 20 ans après le premier, Le silence de la reine, La reine du silence, pardon. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, finalement? Qu'est-ce qui est arrivé dans ces 20 ans?
Eh bien, moi, je crois qu'on ne revisite pas son histoire familiale de la même manière que quand on a 20 ans, 40 ans, 60 ans. Et moi, j'ai senti cette différence. Je comprends ce que dit ma chère Marie Sorbier sur cet élastique mou. Alors, moi, j'ai vécu ce roman-là comme une sorte de roman qui m'a agitée de façon souterraine. C'est-à-dire que parfois, en effet, on peut être un petit peu agacé parce que Marie Nimier est excessivement attachée à sa mère, qu'elle dit elle-même « je devrais faire un stage de je m'en foutisme, mais je n'y arrive pas ». Et bah, je sais pas, moi, je me suis dit qu'en tant qu'être humain, je comprends cette ambivalence qu'on peut avoir. Elle nous parle de sa mère qui, quand elle avait la vingtaine, est une femme absolument sublime. Paf, dans le paragraphe d'après, on est face à sa mère, je ne sais pas quel âge a sa mère à ce moment-là, mais c'est une très vieille dame où elle nous décrit son visage, les rides, le fait même qu'on voit son crâne au travers ses cheveux. Et il y a quelque chose de la cruauté aussi, je trouve, de l'existence humaine, c'est que on a tous, entre guillemets, été beaux un jour et on deviendra tous, si tout se passe comme il faut, vieux et peut-être plutôt laid, bien qu'il y a peut-être d'autres fatalités, c'est peut-être une généralité que je dis, mais j'ai trouvé ça intéressant, cette ambivalence, tous ces contrastes qu'il pouvait y avoir, parce que pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vie, et finalement beaucoup plus qu'on compare à Pierre Lemaitre, alors que c'est incomparable, hein. C'est vraiment notre dispositif qui l'impose. Dans Pierre Lemaitre, les personnages sont tellement d'un bloc avec des contrastes saisissants. Là, pour moi, on est face à la matière humaine parce que l'être humain est complexe, l'être humain est fait de plein de ces petites délicatesses, ambivalences, de contrastes, et je l'ai senti finalement dans le livre de Marie Nimier. Et ce livre, même si parfois j'étais aussi un petit peu agacée de cette relation qu'on pourrait qualifier de toxique en utilisant un mot à la mode qu'elle a avec sa mère, eh bien, ce livre m'est resté en tête. C'est-à-dire que j'ai continué après à y penser par moments, contrairement au livre de Pierre Lemaître, où une fois qu'on connaît la fin de l'histoire, on l'oublie. Moi, c'était un petit peu le défaut que je l'avais trouvé. On oublie assez vite. Et c'est quand même un livre où il y a une enquête, puisqu'il y a des scoops. C'est pas un livre qui tourne en rond, c'est qu'on apprend des choses et on revoit la figure du père, on apprend des choses qu'on ne savait pas aussi au départ.
Oui, sur le comportement de Roger Nimier avec la mère.
Et pas que.
Marie Sorbier.
Oui, parce que je crois que c'est aussi, on dit que c'est un livre sur la mère, mais je crois que c'est aussi un livre sur les hommes, en fait, qu'elle est en train d'écrire, parce que c'est vraiment tous les comportements déplacés qu'ont pu avoir les hommes avec sa propre mère, avec elle. Enfin, elle déploie, elle utilise la figure de sa mère pour aussi parler d'autre chose. Mais je voulais revenir à ce que vous avez dit sur la psychanalyse, parce que je crois que c'est assez juste, c'est l'impression que j'ai eue, c'est-à-dire qu'on a l'impression de quelqu'un qui se livre comme on pourrait le faire devant un psychanalyste. D'ailleurs, elle utilise beaucoup le présent, et elle utilise le présent quand elle raconte des souvenirs ou quand elle raconte ce qui a l'air d'être présent dans sa vie, c'est-à-dire sa mère âgée. Mmh. Et ce choc entre un paragraphe où elle est enfant avec sa mère à la plage et elle raconte une anecdote terrible, enfin très terriblement gênante, puisque c'est quand même ça le but des anecdotes de ce livre-là. Et puis que de suite après, on est dans cette petit appartement, sa mère est vieille, elle veut plus sortir, elle l'agace, mais en même temps, dès qu'elle quitte l'appartement, elle la rappelle en disant « mais quand est-ce que tu reviens ?» Enfin voilà, ces relations-là, tout ça est sur le même plan, et ce qui m'a beaucoup fait penser à ce qu'on dit de l'inconscient, parce que vous savez, dans l'inconscient, il n'y a pas de passé, pas de futur, tout est au présent, comme il n'y a pas de vérité et de mensonge, tout est ce qui est au moment où on le dit, et je trouve qu'il y a vraiment ça. Alors, la ligne, elle est là-dessus, c'est-à-dire que c'est un déversoir, elle emploie beaucoup le mot logorée, mais il y a quelque chose comme ça, c'est une logorée de cette femme qui veut nous déverser un peu toute la toxicité qu'elle a eue, toutes ces névroses qu'elle a portées et dont elle n'a pas su se détacher, et elle s'en veut de ne pas avoir su s'en détacher, parce qu'elle se disait bien qu'elle était une adulte assez responsable pour dire non à sa mère, elle n'a pas réussi. Et j'ai l'impression que c'est vraiment par le livre qu'elle nous donne tout ça en disant voilà, j'ai pas réussi, mais je vous le montre comme une prise de conscience un peu tardive, mais quand même il y en a une, regardez, en effet j'étais comme ça, mais en fait j'aurais pas dû parce que c'était toxique.
Bon, contrairement à la psychanalyse, elle est pas sur son divan, on sent qu'il y a quand même une distance et qu'elle ne joue, enfin elle est pas dans une posture de victime non plus, elle se débat avec la matière qu'elle a sous les mains, c'est-à-dire sa vie à elle, mais tout en on la plaint pas, on a parfois nous-mêmes en tant que lecteur,
on a envie de la secouer. Je trouve qu'elle elle fait pâtir le livre d'un manque d'intensité. Moi, j'ai eu l'impression d'un livre assez monocorde. Il n'y a pas de
même
montée
avec le scoop,
de descente. Même avec le scoop. Qui est un scoop, mais qui ne m'a pas non plus renversé. Quelqu'un lui écrit et lui dit quelque chose. Donc, évidemment, il y a un.
Lui apprend quelque chose sur son histoire. Sur son histoire et l'histoire
et
de
en
ses
fait,
parents.
Elle, mais même le scoop tombe un peu. Puisqu'il
si ce n'est que vraiment, la figure de Roger Nimier est vraiment mise à mal. Là, s'il y en a bien un qui en sort,
le hussard en souffre, là.
Oui, c'est un vrai hussard.
Voilà. Merci beaucoup en tout cas Céline Duchesne et Marie Sorbier d'être venues dans les Midi de Culture pour parler de ces deux livres. Évidemment, toutes les références sont sur la page des Midi de Culture. Vous qui nous écoutez, c'est maintenant à vous de vous faire une idée.